Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, je suis rejoint par Rémi Bigot. Rémi est le présentateur de l'émission YouTube Monter son business show. Cette émission a fait la performance assez impressionnante d'atteindre plus de 100 000 vues au cours de la première année de publication. Vous verrez que Rémi a des ambitions encore plus importantes pour l'année suivante puisqu'il compte atteindre 1 million de vues au cours de l'année 2016. Voilà ce que vous allez apprendre dans cette interview. On verra comment la chaîne YouTube de Rémi a atteint ses fameuses 100 000 vues au cours de sa première année. On expliquera l'effet boule de neige qui explique pourquoi décoller sur YouTube ou sur d'autres réseaux prend du temps. On verra le plan que Rémi a concocté pour atteindre son fameux 1 million de vues en 2016. Rémi nous racontera l'histoire de sa vidéo la plus vue de tous les temps et pourquoi Peugeot le contacte tous les ans en lui demandant de retirer cette fameuse vidéo. On parlera aussi d'un des plus gros forums français sur Michael Jackson, qui a été fondé par Rémi. Au passage, on parlera d'une astuce peu connue pour convaincre vos concurrents qui utilisent AdSense de vous envoyer du trafic. Et en fin d'interview, Rémi nous expliquera pourquoi il pense que la France est un paradis pour entreprendre. Alors, sans plus de transition, je vous présente Rémi Bigot. Salut Rémi et bienvenue sur le podcast.
Salut Stan.
Pour commencer, je voudrais discuter un petit peu avec toi de qui tu es et ce que tu fais. Comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres une nouvelle personne ?
Alors aujourd'hui, comment je me présente ? Comme un animateur d'émissions vidéo, en fait, chaque lundi, qui s'appelle le MSB Show, qui est une émission vidéo qui aide les entrepreneurs à créer et à développer leur boîte. Voilà comment je me présente simplement aujourd'hui, pour éviter le blabla habituel.
D'accord, très bien, très concis. Donc le MSB, c'est Monter son business show. Tu l'as commencé l'an dernier, c'est ça ?
C'est ça, en septembre 2014, ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rythme de publication, tes objectifs ?
Bien sûr. Alors en fait, au début, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai lancé l'épisode 0, hein, l'épisode pilote de l'émission, je me suis dit, je vais me donner vraiment un coup de pied aux fesses, si je puis dire. Je vais m'obliger à publier une fois par semaine. Et la meilleure méthode pour faire ça, c'est de le dire publiquement. Donc dans l'épisode 0, j'ai dit aux gens, voilà, je suis en train de créer une émission, elle va être là chaque lundi, et si jamais elle n'est pas là, bah, vous pouvez m'envoyer un mail d'insulte.
Et entre-temps, tu as publié un épisode chaque lundi ou tu as reçu des mails d'insultes ?
J'en ai reçu quelques-uns.
D'accord.
Il y a eu une petite période, malheureusement, où ça se passait un petit peu moins bien, bon, pour différentes raisons, hein, y compris personnelles. Et donc, j'ai dû arrêter pendant quelques semaines et j'ai reçu pas des mails d'insultes, mais des mails de pourquoi il n'y a pas le MSB Show cette semaine.
Donc, tu as quand même un public qui est vachement fidèle dessus. Et selon mes calculs sur ta chaîne YouTube, les vidéos que tu as publiées jusqu'ici, donc depuis septembre 2014, ont reçu grosso modo 120 000 vues, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, je suis assez content, c'est un bon chiffre, même si évidemment j'ai des ambitions un peu plus importantes.
On peut parler des ambitions justement ? J'ai entendu mentionner certains chiffres que tu avais sur l'année 2016.
Ouais, sur l'année 2016, moi mon rêve vraiment c'est fin 2016 avoir 1 million de vues sur la chaîne, donc ça peut paraître assez énorme. Ça l'est, hein, je pense, parce que c'est quand même une chaîne qui est vraiment B2B, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un public type Cyprien ou Norman, si je puis dire, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font. On est vraiment sur un public entrepreneur, et donc je pense que il va falloir que je modifie certaines choses sur le show pour que ce soit plus attractif. Je suis en train de travailler dessus avec Angeline, qui est une personne qui m'accompagne maintenant et que je salue d'ailleurs.
Elle fait quoi, Angeline ?
Angeline, elle m'aide en fait sur toute la partie stratégie du site et puis sur également les shows, quel sujet on va choisir, comment on D'accord. va les traiter. Et on est en train d'essayer d'améliorer tout ça pour que ce soit encore plus intéressant pour nos auditeurs.
Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas changer dans ton show pour multiplier tes vues grosso modo par 10 ?
Et c'est une bonne question.
T'es encore en train de l'étudier, c'est ça ?
Ouais, il y a plusieurs possibilités. C'est assez difficile parce que c'est un domaine où on peut pas faire n'importe quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que je suis un peu tiraillé entre le fait de j'ai envie de faire des choses et je les fais, point final, et le fait qu'il y a des choses qui risquent de pas forcément bien passer. Typiquement, le fait de rajouter de l'humour, ça peut être à double tranchant, parce que je suis pas un comique, malheureusement. Donc ça peut être à double tranchant. Il y a ça, il y a le fait de publier des épisodes un petit peu plus subversifs, si je puis dire, où je vais donner un peu plus mon avis. Ça, je pense que je vais le faire, parce que pour l'instant, je suis sur certains épisodes un peu trop lisse à mon goût. Donc il y a pas mal de... Je suis encore en train d'y réfléchir et je vais voir, je vais également poser pas mal de questions à mon audience pour essayer d'améliorer tout ça.
D'accord. Tu as mentionné tout à l'heure Cyprien et Norman, qui sont évidemment donc des énormes youtubeurs français qui font des vidéos d'humour. Est-ce que c'est des gens que tu regardes pour t'inspirer dans tes vidéos? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris chez eux? Évidemment, j'imagine que tu n'es pas dans le même format, tu n'es pas exactement sur les mêmes ressorts. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu apprends de ces gars-là, de ces gros youtubeurs?
Oui, clairement. En fait, il y a des choses que je vois qu'ils font parfois que je trouve absolument géniales. Alors, le problème que j'ai, c'est qu'ils sont à un niveau maintenant où ils ont des équipes autour d'eux. Bon, moi, je suis un peu seul aujourd'hui, hein, pour être honnête, pour faire mes vidéos, donc c'est pas aussi simple. On pourrait dire que c'est une excuse, hein, mais c'est un peu la vérité. Ils font vraiment des productions maintenant assez professionnelles, beaucoup plus que moi en tout cas. Mais oui, ça me donne des idées. Il y a un youtubeur que j'adore qui s'appelle Ypenser, je sais pas si tu connais.
Non.
Bruce Benhamra.
Tu peux nous l'épeler?
Ouais, Ypenser, bah I comme I en anglais, hein, un E, penser,
ouais.
Penser ER.
Penser.
Je t'invite vraiment à regarder, et d'ailleurs j'invite tes auditeurs à regarder, cette émission est extraordinaire. C'est une chaîne YouTube qui a été lancée il y a 2 ans, je crois. Et Bruce, donc le mec qui gère ça, en fait, son concept, c'est de complètement vulgariser la science. C'est-à-dire des domaines qui sont souvent très complexes à comprendre.
D'accord.
Lui, il te les présente d'une manière tellement simple et efficace que c'est super passionnant à suivre. Et lui, il m'aide beaucoup. Il y a aussi un YouTuber américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, Gary V, hein, pour les intimes, qui ouais. fait le Ask Gary V Show. C'est une émission vidéo quasiment tous les 2 ou 3 jours. Et lui m'a beaucoup inspiré, notamment.
Qui est incroyable.
Ouais, il est incroyable. Il m'a ouais. beaucoup inspiré et il a une aura, ce type, qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées comme ça. Voilà, j'essaie de mélanger un peu tout ce que j'ai l'habitude de voir pour intégrer ça dans mon show. Par contre, comme je te l'ai dit, pour l'instant, c'est assez compliqué. J'essaie de trouver des personnes avec qui travailler pour améliorer tout ça.
D'accord. Mais ceci étant dit, on est en partie de 1 an. Et on est arrivé à 120 000 vues. Moi, ça ne me paraît pas du tout hors de portée d'arriver à 1 million sur la deuxième année, vu que de toute façon, tu auras toujours dans ce genre d'entreprise quelque chose qui va être une période d'enclenchement où tu as beaucoup, beaucoup de mal à avoir de l'attraction. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un effet boule de neige qui va faire que voilà, tout d'un coup, il y a une croissance qui se fait très rapidement. Est-ce que tu peux revenir sur comment est-ce que tu as lancer le MSB Show, comment est-ce que tu as eu ces auditeurs initiaux? Est-ce que tu avais déjà un public? Est-ce que tu avais des partenariats? Comment est-ce que tu as eu ces 500 premiers auditeurs?
Oui, j'ai triché en fait. Non, j'ai triché dans le sens que j'avais déjà un blog qui existait depuis 5 ans, qui s'appelle montersonbusiness.com, qui est un blog sur l'entrepreneuriat et le marketing que j'ai lancé donc en 2010. Et en fait, j'ai capitalisé sur cette audience-là. Il est vrai que dire « j'arrive comme ça de nulle part » et j'arrive à faire 100 000 vues assez facilement, ça me paraît difficile. Ça peut arriver, hein. Il y a des cas où les gens arrivent à faire exploser leur chaîne du jour au lendemain. Mais c'est quand même extrêmement rare. C'est pas vraiment la majorité. Donc j'ai vraiment utilisé cette première audience. J'ai la chance d'avoir des bases mails. J'ai la chance d'avoir des gens qui me suivaient déjà sur le blog, qui me suivaient également sur les réseaux sociaux, hein, principalement Facebook et Twitter, sur lesquels je suis assez actif. Et donc, ces réseaux et cette première communauté m'ont aidé à atteindre ces chiffres-là. Sinon, ça aurait été plus compliqué, évidemment. Après, tu soulèves un point intéressant sur le fait que les gens comprennent pas forcément ça tout le temps. Mais en fait, il faut absolument être régulier. Il faut être capable de se dire, pendant les premiers mois, je vais galérer. Parce que c'est la vérité, souvent. Ce qui se passe, que ce soit un blog que vous lancez, un compte Instagram, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, il y a vraiment un moment au début où c'est extrêmement difficile, où il ne se passe pas grand-chose.
Ouais, désolé, je te coupe, mais tu m'as fait venir une idée à l'esprit. On peut, si tu veux, ça t'intéresse, illustrer ce concept parce que voilà, tu vois que mon podcast est assez, assez récent. Ça veut dire que j'ai publié mon premier épisode au mois de juillet. Donc là, je suis dans mon 4e mois parce que là, on est au mois d'octobre, on enregistre ça. Et grosso modo, l'auditoire double tous les mois. C'est-à-dire que en ce moment, les chiffres sont assez petits. Tu vois, en octobre, on va faire un peu moins de 3000 vues sur le podcast. Mais si je calcule la trajectoire qui se fait là, effectivement, il y a une accélération qui est assez forte. Donc en fait, c'est pas parce que ton premier épisode a été vu 50 fois C'est normal, en fait. Et t'as forcément quelque chose, voilà, un effet boule de neige qui fait que ça s'augmente. Moi, je le savais déjà parce que c'est pas mon premier podcast. J'ai un autre podcast qui fonctionne très bien sur iTunes, qui a commencé pareil avec 20, 30, 50 épisodes, 50 vues par épisode, pardon. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de vues chaque mois. C'est pas juste pour expliquer, hein. C'est juste, voilà, c'est une trajectoire en termes de contenu. Si tu veux faire de la vidéo, en particulier sur YouTube, qui est quelque chose de très encombré, t'as une bascule qui va se faire à un moment où tout d'un coup, tu décolles. Est-ce que toi, tu l'as remarqué d'ailleurs, cette bascule? C'était un point particulier dans le temps où t'as commencé à avoir de plus en plus de vues, ou est-ce que ça s'est fait régulièrement?
Non, ça s'est fait régulièrement, et en plus, ce qui est assez bizarre, et ça, j'arrive pas encore forcément à l'expliquer, c'est qu'il y a des vidéos, bon. En fait, je l'explique, hein, y a des sujets qui sont peut-être plus intéressants pour les entrepreneurs que les autres, mais il y a des vidéos qui font beaucoup de vues et d'autres qui en font beaucoup moins. J'ai pas encore cette lame de fond, si tu veux, où il y a vraiment un public ultra, ultra fidèle. J'ai des gens qui sont fidèles, mais ils sont finalement pas encore très nombreux. Et donc, c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à vraiment faire exploser le show, je pense. Après, il y a aussi le fait que, peut-être, sur certains points, je suis pas encore parfait, entre guillemets, hein, mais ça, je le sais. Il faut que je continue. Je pense que voilà, la deuxième année va vraiment être très importante. Soit j'arrive vraiment à faire exploser le show, soit je sais pas. On verra ce qu'on fera. Mais j'ai vraiment pas de doute sur le fait que ça peut fonctionner. C'est un sujet qui est important. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gens qui veulent se lancer. Et ils ont de plus en plus de questions parce que il y a beaucoup d'informations sur le web. Mais c'est très difficile de trouver la bonne information au bon moment et rapidement. Donc je pense que là, le show peut être intéressant parce qu'il va vraiment droit au but. Même si je suis pas marseillais.
Comment est-ce que tu... Qu'est-ce que tu retires du show? Est-ce que tu fais de l'argent avec? Comment ça se passe pour toi?
Alors en fait, directement, non. Hein, je vais être honnête. Par contre, indirectement, oui. C'est-à-dire que ça m'a permis plusieurs choses. Ça m'ouvre des portes. Pour te donner un exemple, il y a 2 semaines, j'ai enregistré un épisode dans le studio BFM sur le Salon des Entrepreneurs. Donc tu vois le genre de porte que ça peut ouvrir d'avoir un show comme ça, créer des partenariats importants avec les échos par exemple. Et ça m'apporte beaucoup de trafic nouveau si tu veux, et donc de vente derrière. Parce que moi sur mon site, je vends plusieurs produits aujourd'hui. D'ailleurs je suis en train de travailler sur un nouveau produit qui va être une plateforme de formation. Mais en attendant, j'ai des produits numériques, j'ai un livre papier et j'ai également un audit de site internet. Et pour ces différents produits, j'ai eu une augmentation des ventes qui s'est faite. Donc oui, j'ai vraiment un impact indirect. J'ai également plus de contacts de personnes qui sont intéressées peut-être pour mes services en consulting. Ça, je le fais de moins en moins maintenant parce que je me dirige vraiment vers un business model où je veux vendre plutôt de la formation et du produit numérique plutôt que des heures de mon temps, si je puis dire. Tu dois peut-être connaître ça. Je sais pas toi comment tu monétises aujourd'hui, mais...
Ah, moi, j'ai fait absolument le parcours inverse, donc c'est magnifique. Moi, je vendais de la formation. Enfin, je vends toujours beaucoup de formations, mais pas dans le milieu du business. Et je me suis dirigé vers du service. Et là, on a... voilà, parce que j'ai une compétence très, très précise que je voulais vendre et appliquer sur des gros business. Ça m'intéresse d'avoir ce levier-là, sur la conversion en particulier, mais aussi sur du Facebook. Là, on s'oriente vers une diversification, mais pendant un moment, je m'étais recentré beaucoup sur le service. Ceci étant dit, je comprends tout à fait le calcul qui dit je préfère vendre de la formation que du service, etc. Ça dépend en fait de... C'est une question de positionnement et aussi de vie. Comme on en a parlé avant l'interview, chacun aussi joue ses cartes en fonction de la vie qu'il a envie de se créer.
C'est ça. Puis moi, il y a aussi un autre point qui est très important et qu'on mentionne pas forcément quand on parle de ça, de fameux « je vends mon temps pour de l'argent ». C'est surtout que moi, j'ai un objectif qui est assez important derrière le MSB, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs, et ça, c'est véridique, hein, c'est vraiment pas du bullshit, d'aider un maximum d'entrepreneurs à créer et à développer leur boîte en France. Et voilà, si je pouvais, je sais par expérience que d'aider des gens via une formation, une conférence en ligne ou quelque chose comme ça, je peux aider beaucoup plus de personnes en même temps que si je fais simplement du consulting one-to-one, tu vois, avec un seul client à la fois. Et du coup, par rapport à mon objectif, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour moi de faire de la conférence en ligne et de la formation, parce que je vais pouvoir aider beaucoup plus de personnes à la fois et donc atteindre mon objectif final.
En parlant de chaîne YouTube, est-ce que tu sais quelle est ta vidéo la plus vue sur YouTube?
Non, je sais pas.
la vidéo la plus vue sur ta chaîne, elle s'appelle Peugeot 107, voiture en carton.
Oui, je sais. Ah oui, c'est vrai. C'est une des plus, c'est probablement une des plus vues. Oui, c'est possible.
C'est la vidéo la plus vue sur ta chaîne de loin, qui a plus de 22 000 vues et qui semble pas faire partie du MSB Show. C'est une vidéo qui est devenue virale par elle-même.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors c'est une longue histoire, mais je vais la faire un peu courte. À une époque, donc on avait cette voiture, on l'a toujours d'ailleurs. Qui était quasiment neuve, mais qui était sortie de garantie, si je puis dire, et qui prenait l'eau, littéralement. Donc, en fait, quand je les avais contactés, ils m'avaient dit oui, mais c'est hors garantie, donc vous comprenez, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Je fais, comment ça, vous pouvez rien faire? Enfin, vous trouvez ça normal qu'une voiture, même hors garantie, juste après la fin de garantie, prenne l'eau? En plus, à Cannes, qui est pas forcément une ville où il pleut beaucoup. Non, mais on peut rien faire, on peut rien faire. Donc là, bah, ce que j'ai décidé de faire, j'ai utilisé mon blog et la vidéo YouTube pour dénoncer ça. Effectivement, ça a fait un joli petit bonhomme de chemin. Hein. Ça a été vu un peu partout, ça a été partagé beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le soir même, j'avais Peugeot France qui m'appelait en panique. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Bigot? Pourquoi vous avez publié ça, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc je leur explique la situation. Effectivement, 2 semaines après, tout était réglé, tout était rentré dans l'ordre. C'est pour montrer à quel point, voilà, les marques aujourd'hui ont vraiment du mal à gérer leurs clients correctement, à avoir un vrai service client. Et on est obligé de taper du poing sur la table de cette manière-là pour obtenir gain de cause. Ce qui est assez scandaleux et le plus drôle, c'est que depuis cette vidéo, chaque année, Peugeot me contacte pour me demander d'enlever la vidéo et l'article. Et à chaque fois, je leur dis non.
Ils t'ont jamais proposé de l'argent pour la retirer?
Non, ils m'ont pas proposé de l'argent. Okay. Ils m'ont pas proposé d'argent et même s'ils l'avaient fait, j'aurais dit non. Parce que j'estime que, en plus, je leur ai dit, moi, l'article, je l'ai modifié. C'est-à-dire qu'en haut de l'article de blog, il y a marqué précisément que Peugeot a fait le nécessaire après maintes discussions. Et voilà, j'ai été tout à fait honnête. Donc l'article et la vidéo, pour moi, doivent rester en ligne. Et c'est comme ça, ils avaient qu'à pas faire les cons au début. Tu me passeras l'expression.
Oh, je te la passe sans problème. Je voudrais changer un peu de vitesse et parler d'un de tes autres projets. J'ai vu que tu avais créé un forum qui s'appelle mjackson.fr, qui est assez populaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est monté? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-il advenu de ce site? Est-ce que tu travailles toujours dessus? J'ai vu qu'il était toujours actif.
Ouais. Alors, bah écoute, c'est très simple. Donc, mJackson, c'est l'un des deux plus gros sites français, deux plus grosses communautés françaises sur Michael Jackson. Pourquoi j'ai lancé ça? Parce que j'étais un fan, hein, tout simplement. Je le suis toujours. J'ai lancé ça. Alors, au début, ça s'appelait le MJTNK. Ça doit dater de 2002, de mémoire, la première version du site. Et c'est devenu mJackson en 2005 ou 2006 de mémoire. Pour faire très simple, en fait, c'était le but, c'était de dire, voilà, à l'époque, alors faut bien comprendre qu'on est à une époque où il n'y avait pas encore Facebook. Hein. Donc, on remonte pas mal dans le temps. Maintenant, on se demande comment on faisait sans, mais bon, c'est comme ça. Donc, à l'époque, il y avait pas mal de forums qui se créaient sur différents sujets. Et je me suis dit, je vais essayer de créer une communauté autour d'une de mes passions, qui était Michael. Et on va essayer de créer quelque chose autour de ça. Et ça a pris assez rapidement, en fait. Donc, en fait, il y avait deux gros forums. Il y a le MJ France, qui existe toujours, et le mJackson. Et on a créé une communauté autour de ça. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. On a discuté. Enfin, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Et puis, il y a eu malheureusement un pic de trafic pharaonique le jour de sa mort. Je me rappelle... Alors, en plus, c'était sur un serveur. C'est toujours sur un serveur Mutu, je crois. Je crois que c'est... Ouais, enfin, le site est tombé au-delà de la 100 000e personne qui s'est connectée en même temps. Enfin, un truc de dingue, quoi. Ça a été vraiment hallucinant. L'analytique s'est bloqué. Bon, malheureusement, c'était une période pas forcément intéressante, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, c'était une très belle expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le référencement naturel, sur le marketing, sur comment faire venir des gens sur un site, comment les fidéliser. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma carrière par la suite, en fait. Donc, je suis très content d'avoir créé ça et d'avoir eu cette aventure-là.
Ce site-là, tu l'as monétisé? Tu avais mis du AdSense dessus un moment ou est-ce que c'était vraiment pour toi un truc de fan?
Ouais, au début, il y avait du AdSense. Après, il y a eu une époque, tu sais, où il y a eu les fameuses sonneries pour mobile, où il n'y a pas que les sonneries. Il y avait aussi, tu sais, tu pouvais, enfin, tout ce que tu pouvais à l'époque modifier sur ton mobile et qui coûtait super cher par des appels surtaxés. J'ai eu des partenariats avec Sony, puisque Sony était l'entreprise qui gérait donc les disques de Michael. Donc il y a eu plusieurs partenariats sur certains lancements, etc. Certains lancements de produits. Donc oui, c'était monétisé principalement par l'affiliation et au début par AdSense. Même si moi j'ai très rapidement arrêté AdSense sur tous mes sites web en fait, parce que je me suis rendu compte que pour pas mal de niches, il était beaucoup plus intéressant de faire de l'affiliation, c'était beaucoup plus rentable et intéressant aussi pour le public, que de faire du AdSense. Je sais pas si toi tu as noté la même chose, mais moi j'ai très vite quitté AdSense assez rapidement.
Moi je suis arrivé trop tard, en fait j'ai jamais vraiment fait d'AdSense. Quand j'ai commencé vraiment à bosser, il était déjà. En fait, je connais des gens qui font vraiment de l'argent avec AdSense, mais il faut avoir un business model qui est construit autour de AdSense, avec du gros trafic, avec beaucoup de sites, avec généralement des stratégies de référencement très agressives, ce qui est une stratégie particulière. Moi, ma stratégie, ça a toujours été d'aller sur la conversion, de maximiser la valeur par visiteur. J'ai jamais vraiment eu de compétences pour aller vendre mon clic à AdSense pour 30 centimes. M'a jamais beaucoup intéressé par cette approche-là. Mais par contre, j'avais des bonnes relations, en particulier quand je travaillais pas mal dans la séduction avec ces gens-là, parce que les gens qui bossent beaucoup sur AdSense, et ça c'est intéressant en termes business, ils savent que si c'est sous-optimal, le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment remplacer cette source de revenus. Et si tu peux trouver des sites qui ont le trafic qui t'intéresse et qui mettent du AdWords, dans la plupart des cas, tu peux les pitcher et tu peux les convaincre de bosser avec toi sur un système d'affiliation ou de reprendre leurs espaces publicitaires en leur donnant un meilleur prix que ce que leur paye AdSense. En mieux monétisant ce trafic-là, tu peux générer plus d'argent, reverser plus d'argent aux propriétaires du site, et toi, ton côté, avoir un peu la mainmise sur une source de trafic intéressante, etc. Ça, c'est une stratégie, par contre, que j'ai beaucoup utilisée. Donc, en fait, convaincre les gens de remplacer leur pub AdWords par des pubs pour mes propres produits ou mon propre site, ce genre de choses.
Ça, c'est une excellente stratégie que j'avais aussi utilisée quand je gérais la plateforme d'affiliation d'eBay à Londres pour la France, l'Italie et l'Espagne. C'est vrai qu'on contactait aussi des gros sites comme ça qui avaient des trafics énormes et qui monétisaient uniquement avec AdSense, et on essayait de les convaincre de passer sur notre formule qui était un mix affiliation coup par clic. Et alors parfois ça fonctionnait pas du tout, hein, faut être honnête, ils étaient pas du tout intéressés, ils avaient peur en fait. Souvent ils avaient peur, fallait un peu de temps pour les convaincre. Mais par contre ceux avec qui on arrivait à ceux dont qu'on arrivait à convaincre, bah effectivement on avait des résultats super intéressants, et c'est une très bonne stratégie que tu viens de nous présenter.
je pense qu'il y a une vraie enfin moi ça a toujours été ma compétence d'aller sur de la conversion, c'est-à-dire trouver une source de trafic et trouver comment mieux la monétiser. Ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans beaucoup de cas, mais il y a des gens qui sont spécialisés sur comment ramener un max de trafic. Et moi, je me place plutôt de l'autre côté. Tu vois. Et j'avais vu une définition intéressante de quelqu'un qui disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve comment prendre une ressource qui est sous-utilisée et l'utiliser de façon plus efficace. C'est-à-dire, tu trouves ce site-là qui est sous-utilisé. Si tu peux l'utiliser de façon plus efficace, tu vas créer en fait une plus-value qui est la différence entre l'argent qui rapportait avant et l'argent qui rapporte après. Et là-dessus, c'est là où il y a des opportunités. Soit en faisant partenariat avec le mec, soit moi, j'ai été faire pas mal de deals où on a essayé de racheter les sites carrément. On voyait des gens qui avaient des sites qui semblaient être sous-utilisés. On arrive et on les voit, on dit, écoute, tu fais 200 euros par mois sur ce site. Nous, on pense pouvoir en faire 1500 ou 2000. Bah tiens, on va te le racheter et on va te donner un prix très généreux par rapport à ce que tu fais maintenant. Et en fait, c'est l'idée, voilà, on achète un truc, effectivement, de notre point de vue, on l'achète moins cher qu'il ne vaut, mais de son point de vue à lui, il nous vend plus cher que ce qu'il aurait gagné par lui-même. Donc, tu peux monter comme ça des deals gagnant-gagnant quand tu remarques ce genre de choses. Et je conseillerais les gens qui sont un peu pointus en web marketing et qui travaillent dans des niches ou dans des marchés où le webmaster moyen n'est pas aussi pointu, d'aller voir les sites dans votre niche qui ont les gros mots-clés, qui ont du trafic, et d'aller vous demander, est-ce que vous pensez que ces sites monétisent leur trafic de façon efficace ? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous pouvez les aider à mieux monétiser et dans le process, vous récupérer soit du trafic, soit de la vente, etc. Il y a souvent des choses à faire comme ça. Alors, on n'y pense pas forcément. Parce qu'on se dit personne ne va m'envoyer du trafic pour rien, mais bon, l'affiliation, le AdSense, c'est des gens qui ont du trafic mais qui ne savent pas comment le monétiser, donc ils ont besoin justement de quelqu'un qui les envoyait, quoi.
Bah, ils ont choisi souvent le chemin de facilité, quoi. C'est vrai que c'est très facile de prendre un code JavaScript sur AdSense et puis de le poser sur son site, c'est assez simple, Par contre, effectivement, ils se sont peut-être pas posé la question plus loin, est-ce qu'on peut monétiser mieux? D'ailleurs, il y a eu un débat là pendant, enfin, il y a toujours le débat d'ailleurs par rapport aux ad blockers, hein, tu sais, les systèmes qui permettent de bloquer la publicité sur les navigateurs des visiteurs, des gens, qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser. Et il y a beaucoup de sites qui disent oui, qui commencent à pleurer, etc. Voilà, on n'arrive plus à s'en sortir. On propose du contenu gratuit, mais on se rémunère par la pub. Et à chaque fois, je leur dis, mais du coup, on rentre souvent dans un débat sans fin. Hein, je leur dis, mais écoutez, je comprends tout à fait que ce soit difficile, mais plutôt que de vous lamenter comme le feraient les taxis quand Uber arrive chez eux, essayez de trouver des solutions alternatives. Vous avez du trafic, vous avez un public qui est quand même assez fidèle. Proposez-leur autre chose. Proposez-leur autre chose. Et à chaque fois, la réponse, c'est « Mais non, attends, t'es fou, machin, il n'y a pas d'autre solution, on a déjà essayé. » Bah, t'as peut-être mal essayé, je ne sais pas. Moi, je pense qu'effectivement, il y a énormément d'autres choses à faire maintenant pour monétiser. Il y a un truc qui est fou. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, sur les replays, tu sais, les fameux replays de télé, maintenant, tu as de la pub partout, quoi. Pendant, au milieu, à la fin. Mais on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris que les gens ne voulaient plus de ça, quoi. Si les gens regardent en replay, c'était justement pour qu'il n'y ait plus de publicité. Et ils n'arrivent pas à trouver une alternative, alors qu'il y en a. Hein. Ils pourraient intégrer la publicité dans les contenus, ils pourraient faire des partenariats différents, enfin, il y a énormément de choses à faire, je pense, qui leur permettraient de monétiser autant, voire mieux qu'avant.
C'est intéressant quand tu parles de médias et de la perte de la pub, de regarder le trajet de certaines organisations comme par exemple le New York Times, qui pourtant est une organisation énorme et qui essentiellement sont en train de se transformer en un média de niche. Et par là, je veux dire que leur nouvelle stratégie, c'est de maximiser les gens qui vont payer pour être abonnés en ligne et avoir les articles premium, etc. Et leur différenciation, c'est se dire, les gens seront prêts à payer pour le meilleur contenu. Et ça, tout le monde dit, ouais, sur Internet, ça marche pas, personne ne veut payer, etc. Si tu vas regarder les chiffres actuels du New York Times, ça fonctionne. Ça veut dire qu'ils sont en train de remplacer leur revenu publicitaire parce que les gens sont prêts à payer 10 $ ou 15 $, je ne sais pas quel est le tarif, le mois, pour avoir accès à ce contenu premium, sans pub, avoir directement accès, voilà, à l'important sans avoir à parcourir 50 articles qui sont là juste pour faire de la pêche vue, etc. Et il y a un vrai business model à inventer sur les médias, et on voit que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ou des boîtes comme BuzzFeed qui font un travail incroyable. Bon, alors pour le coup, BuzzFeed, ils vont sur une stratégie différente, ils sont pas sur le haut du marché, mais qui font un travail incroyable en termes de publicité native, etc. Et qui ont su monétiser une organisation, voilà, à un moment où tout le monde disait la pub c'est mort, on peut plus faire de médias, il y a plus de moyens de se rémunérer.
Bien sûr. Il y a un autre exemple français, enfin il y a deux exemples français qui sont intéressants. Le premier, c'est Les Échos. Ils ont compris que le journal était mort ou presque, hein, enfin que ça allait être difficile dans les prochaines années en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté un salon, le salon des entrepreneurs. Ils essayent de créer des produits pour les entrepreneurs, donc des services. Ils vendent du serviciel. Ils sont en train de redresser la barre. Il y a un autre exemple aussi, c'est le. Ah, je ne vais pas me rappeler du nom, là. Le journal d'Edoui Plenel, là, comment ça s'appelle? Ah, je ne vais plus me rappeler du nom. Bon, enfin,
J'ai
tout
envie
le
de
monde.
dire Mediapart, mais il est
Voilà,
possible que je ne me trompe
Mediapart.
pas.
Mediapart aussi, c'est extrêmement intéressant. On voit bien que quand on est capable de donner du vrai contenu, hein, je parle du vrai contenu, pas un truc à la con, juste pour amener des visiteurs, quelque chose de vraiment intéressant et d'exclusif, on est capable de faire payer les gens. Ça fonctionne. L'autre exemple tout simple, c'est Netflix. Enfin, je veux dire, si c'était le cas, si les gens n'étaient pas prêts à payer pour du contenu qui, soi-disant, parce que c'est vrai que ce contenu, on pourrait le trouver gratuitement ailleurs sur Internet, on le sait, hein, il y a beaucoup de gens qui arrivent à télécharger ou à faire du streaming gratuit. Bah pourtant, regarde, ils sont en train de faire un chiffre incroyable, ils ont un nombre d'abonnés qui est phénoménal, et ça fonctionne. Pareil pour Deezer ou Spotify, qui pourtant sont sur des marchés qui étaient dits morts et terminés. Donc je pense qu'il y a possibilité, par contre, effectivement, faut être peut-être un peu plus malin qu'avant, et surtout travailler peut-être un peu plus sur certains points.
Ok. Je voudrais terminer avec toi sur un sujet que j'ai entendu plusieurs fois mentionné dans cette interview et dans d'autres interviews, c'est-à-dire j'ai le rapport à la France. Peut-être que les auditeurs sauront que moi, j'ai tendance à ne pas rester en France très longtemps. J'aime bien être autre part. Voilà, en termes d'environnement, c'est pas un endroit où je passe beaucoup de temps. En revanche, j'ai l'impression que c'est pas ton cas. Et je t'ai entendu dire dans une interview que la France, c'est un paradis pour entreprendre.
Oui, exact. Alors en fait, c'est, moi, je suis un extrémiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extrémistes anti-France. Enfin, quand même, d'ailleurs, parmi les Français, il y en a beaucoup, je trouve, beaucoup trop à mon goût. En fait, maintenant, c'est même pour te faire marrer. Maintenant, je dis ça à chaque fin de MSB Show, en fait. C'est devenu une de mes marques de fabrique. Et ça fait beaucoup réagir et je suis très content parce que ça, mais ça me représente. Je le pense vraiment. Hein. Je le pense vraiment. Je fais partie de ces personnes qui pensent que c'est le cas. Alors après, évidemment, on me tombe dessus en disant non, mais t'es sérieux là, tu te moques du monde. Alors j'explique, je donne mes arguments, etc. Mais d'ailleurs, on fait un débat en novembre avec Romain Laventure, qui est un collaborateur, quelqu'un avec qui je travaille souvent, où justement on va débattre de ce sujet. En fait, la France, moi, c'est quelque chose que c'est un pays que j'adore, évidemment. Je suis très content d'être ici. On va me taxer de patriote ou de franchouillard, mais c'est pas vraiment le cas. Non, je pense que c'est un pays qui est magnifique, qui a des gros défauts, on est tous d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer, mais par contre, au niveau... Enfin, il y a plein de choses qui font que les entrepreneurs ont vraiment possibilité de démarrer, en tout cas ici. En fait,
Quelles sont ces choses, du coup?
Alors, ces choses, il y en a plein. La première, elle est toute simple, c'est que c'est, je pense, le seul pays au monde où tu peux te financer avec Pôle emploi. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est beaucoup. Il n'y a aucun pays au monde où tu peux, effectivement, pendant un an ou un an et demi, tester ton projet gratuitement, entre guillemets, et être financé par un organisme d'État qui te dit « Ok, on te suit ». Quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement des choses qui sont mises en place comme le statut d'auto-entrepreneur. Ça paraît rien, mais en fait, c'est un statut qui est extrêmement simple à mettre en place, qui est extrêmement simple à créer. On peut créer sa boîte maintenant en moins d'une journée en France, hein, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. On croit que c'est le cas, mais c'est pas vrai. Quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout le cas. Le vrai problème qu'il y a, par contre, c'est effectivement quand on arrive dans la deuxième phase, c'est-à-dire on est bien lancé, on a eu ce qu'il fallait au début pour démarrer, et après, par contre, on a besoin de fonds peut-être pour aller plus loin. Là, ça peut être problématique dans certains cas. Je le vois par exemple, des entreprises qui disent, voilà, j'ai fait une première levée de fonds, c'était cool, super, j'ai eu ce dont j'avais besoin pour démarrer ici. Par contre, pour me développer maintenant, j'ai beaucoup de mal à trouver le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième round, hein, la deuxième levée de fonds, qui est souvent beaucoup plus importante que la première. Et là, on a un vrai blocage. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il y a effectivement de l'amélioration possible. Après, il y a plein d'autres exemples, hein, des aides régionales, locales, départementales. Tout est mis en œuvre pour essayer, en tout cas, de faire des choses. Par contre, il y a des points négatifs, comme le RSI, par exemple. On en parle parfois en mal, et je comprends pourquoi. Un organisme qui, parfois, met des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Mais je pense que, d'un point de vue général, il y a tout ce qu'il faut en France pour réussir. C'est mon avis. Après, on peut en débattre.
Et j'en débattrai pas avec toi d'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment d'opinion sur cette question. Disons que moi, mon ambivalence vient plutôt de la mentalité des gens, que je trouve en dehors d'un petit cercle d'entrepreneurs, etc. La mentalité des gens que je trouve extrêmement défaitiste, et c'est un cliché, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Hein, les gens sont là et personne n'y croit, c'est particulièrement difficile pour moi qui passe beaucoup de temps à l'étranger. Et qui bosse comme un malade sur ce business. Et quand même, j'arrive à avoir des bons résultats vis-à-vis du temps qu'on a pour se développer. Et quand je rentre en France, je suis à moins que rien. Parce que j'ai pas été dans la banque comme tous mes amis. Et donc, du coup, je suis un touriste, quoi. Je suis un touriste. Personne ne peut comprendre que tu puisses avoir une ambition en dehors des petites traces qui t'ont été désignées. Et si tu sors de ce petit chemin, tout d'un coup, t'es un touriste et tu rentres pas dans les moules et personne ne comprend et tout le monde... Et voilà. Et moi, c'est ça. C'est une des principales raisons pour laquelle je passe très peu de temps en France.
Ouais, c'est que j'ai l'impression, l'état d'esprit général.
Ouais, c'est ça. Bah, après, alors, tu dis, voilà, pour toutes les questions régulatoires, moi, je suis le premier à penser que la France est probablement dans le top 15 des pays dans le monde dans lesquels entreprendre. Hein. Je peux dire, moi, j'habite au Vietnam, c'est pas un endroit où t'as envie de monter une boîte.
Ah ouais, c'est assez...
Aller faire face à la régulation locale, faire du business local, c'est l'enfer. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont largement pires que la France là-dessus. Hein. Mais...
Ouais, toi, c'est plus un problème d'état d'esprit, de fait de pas être dans le moule, d'être différent, quoi, en fait. C'est plus ça.
Pas tellement. Moi, j'ai réalisé que j'étais devenu très perméable à mon environnement.
D'accord.
C'est-à-dire que si je suis en France et j'aurais l'impression de bosser à fond, d'être ambitieux, de faire des choses. Mais rétrospectivement, je regarde, j'ai fait quoi pendant 3 mois ? Et en fait, j'ai été moins agressif, j'ai fait moins de choses, j'ai bossé moins dur, j'ai pris moins de risques. Parce que mon environnement me dit, il faut jouer la carte de la prudence.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ce qui va être pertinent pour moi, ouais. Parce que moi, je fais largement assez d'argent pour vivre, si tu veux, voilà, à mon niveau. Ce qui me reste maintenant, c'est de prendre des risques, d'aller plus gros, d'engager du monde, de monter des choses.
Ouais, je comprends.
Ce qui est un aspect 100% psychologique, tu vois. Ça n'a pas forcément lié avec les impôts que tu payes ou avec... Les frais, etc. C'est lié à ton environnement, au dynamisme, aux vibrations qui sont dans l'air presque. Moi, je suis devenu extrêmement sensible à ce genre de choses. Et en fait, je choisis maintenant là où je vis en fonction des gens avec qui je peux m'entourer.
Ouais, bah écoute, ouais, si, je comprends tout à fait du coup ton état d'esprit et pourquoi tu penses comme ça. C'est si effectivement, de toute façon, il y a des gens qui, suivant avec qui ils sont, avec qui ils travaillent ou avec qui ils vivent, vont être plus ou moins bons, performants, motivés, etc. Donc évidemment, si ton environnement te tire vers le bas, c'est que ça va pas, quoi. C'est qu'il y a un problème. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir ailleurs, clairement.
Pour terminer avec toi, 3 questions rapides. La première question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Un livre que je recommande souvent, oui, peut-être même un peu trop. Comment se faire des amis ? De Dale Carnegie. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on lit ça, alors le titre peut paraître angélique, très bizarre, absurde, mais en fait, quand on lit ça, d'ailleurs, ça a été écrit, je crois, dans les années 20, donc en 1920 ou 25, un truc comme ça. Mais quand on lit ce livre, on se dit, mais c'est incroyable, on dirait qu'il l'a écrit hier, et on comprend tout, voire absolument tout, des relations humaines, en fait. Et je pense que s'il y avait qu'un seul livre à lire, ce serait celui-là, pour comprendre un peu comment fonctionne le monde.
Ok. Moi, je le recommande aussi. Je l'ai lu quand j'étais assez jeune, quand je devais avoir 17-18 ans. Et il m'a beaucoup influencé. J'y repense encore aujourd'hui. C'est un livre avec des principes simples, de bon sens, mais on s'aperçoit parfois qu'on ne les a pas suffisamment appliqués, qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire plus d'efforts là-dessus.
Exact. C'est fou parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu lis le livre, tu dis « Mais oui, mais il a tout à fait raison. Enfin, ça paraît évident. » Et puis tu réfléchis un peu, quand tu fais la rétrospective de ta vie un peu, ou des choix que tu as pu faire, tu te dis, mais attends, mais non, en fait, non, je ne l'ai pas intégré, ce truc-là, en fait. C'est assez fou.
Okay.
C'est assez fou.
Deuxième question, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Waouh, à mon moi-même de 20 ans, alors attends, à 20 ans, j'étais encore salarié dans une boîte. Je lui dirais, va plus vite dans l'entrepreneuriat, perds pas ton temps. non, je dirais pas ça parce qu'en fait, je me rends compte que ça m'a quand même beaucoup apporté. Je lui dirais, bah écoute, fais-toi confiance, ça va passer. C'était
D'accord.
pas forcément une bonne période.
Combien de temps t'as pris entre l'âge de 20 ans pour rentrer dans l'entrepreneuriat comme tu le fais aujourd'hui ?
Attends, j'ai démarré la toute première boîte qui a été un échec total, c'était en 2005. Donc ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans, pardon pour le petit téléphone derrière.
Pas de souci.
Après, j'ai alterné les périodes d'entrepreneuriat et de salariat, mais j'ai commencé il y a 10 ans.
Ok. Troisième question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Une citation ou un proverbe, oui, il y en a une qu'on a... utilisé pas mal dans l'un de mes espaces coworking où je travaille à Nice, qui est les satellites, c'est « Just fucking do it ».
Okay.
Voilà, c'est « Arrête de te prendre la tête, fais les choses. Oui, ça peut ne pas être facile. Oui, tu peux avoir des difficultés. Mais si tu fais pas, tu sauras pas. Donc, arrête de te prendre la tête et vas-y, quoi. Justement, ça va un peu dans le sens d'entreprendre, de pas laisser la vie te dicter tout ce que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines années.
Ça marche. Pour conclure, Rémi, est-ce que tu peux me dire où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais ?
Bien sûr. Encore une fois, merci en tout cas de m'avoir accueilli dans ton podcast. C'était vraiment agréable.
Un plaisir.
Les gens peuvent me trouver très facilement sur YouTube. Ils tapent MSB comme Monter son business show ou Rémi Bigot, R-E-M-Y, plus loin, B-I-G-O-T. Sinon, sur mon site, montersonbusiness.com.
Ça marche. On mettra de toute façon les liens que tu as mentionnés, vers les livres, vers ton site, vers ta chaîne YouTube, etc., dans l'article de cet épisode pour que les gens puissent facilement se retrouver. En tout cas, Rémi, je te remercie d'avoir été avec moi. C'était un plaisir et à la prochaine.
Un grand merci à toi et à très vite. Et puis, si tes auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas.
Ça marche. Et donc, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, rendez-vous maintenant sur marketingmania.fr/podcast. Et à cette adresse, vous pourrez d'abord, numéro 1, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez voir tous les épisodes précédents du podcast. Et vous pourrez, si vous avez envie de me donner un coup de main, me laisser une évaluation sur iTunes. Les évaluations à 5 étoiles sur iTunes sont cruciales pour les podcasts parce que le moteur de recherche d'iTunes est assez simpliste et un des seuls indicateurs qui est important pour être mis en avant sur iTunes, c'est les fameuses 5 étoiles. Donc si vous utilisez iTunes, si vous êtes sur votre iPhone en ce moment, prenez 30 secondes et laissez-moi une évaluation à 5 étoiles sur iTunes. Je vous en serai très reconnaissant. Alors pour terminer, je vous redonne l'URL pour vous abonner, pour voir les épisodes précédents et pour me laisser une évaluation. Le lien, c'est marketingmania.fr/podcast. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouverai dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania.